messieurs, dames, rebonsoir. Nous avons une invitée. Eh bien, si vous ne la connaissiez pas encore, vous gagnez à rester avec nous pour les 10 prochaines minutes, car vous allez faire une rencontre incroyable. C'est une députée à l'Assemblée nationale, oui, du Québec. Elle est députée de la circonscription de Saint-Laurent. Eh bien, messieurs, dames, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir à Coconut Podcast Marwa Risky. Marwa, comment vas-tu?
Je vais très bien, et vous?
Ben, ça va bien, merci. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir à l'émission Coconut Podcast. Marwa Risky, ceux qui ne te connaissent pas, oui, on sait que t'es députée de la circonscription de Saint-Laurent, mais t'es qui, hormis d'être une députée, ton background, et surtout par la suite, quel est ton travail comme députée?
Ah, oh, ben mon background, je suis une fille de Montréaliste, une joueuse de basket, je joue toujours, j'adore courir, je voyage, je fais des demi-marathons quand je voyage avec mes amis. Et aussi, je suis avocate fiscaliste en quête de justice fiscale pour avoir un peu plus de justice sociale. Et par la suite, j'ai décidé de faire le saut en politique et mon travail de députée, j'en ai deux. Un dans mon comté à Saint-Laurent, où est-ce que je suis vraiment avec toute ma gang de Saint-Laurent, le maire Alain de Souza, Francesco Médé, Arif Salem, les conseillers de ville, et où est-ce qu'on travaille vraiment en partenariat avec tous nos organismes, où c'est Calvin Moore, la Chambre de commerce de Saint-Laurent, ainsi que Sylvie Séguin, que d'ailleurs que je salue, je sais qu'ils vont nous écouter. Et on travaille avec nos organismes sociaux communautaires, que ce soit le Centre d'action bénévole, le CACI, le CARI, la COCLA, la Corbeille, puis en ce moment, ça, c'est trois organismes, là, je peux vous dire, là, qui... rame énormément en pleine période de COVID-19 parce que plusieurs ont perdu leur emploi. Donc, les banques alimentaires à Saint-Laurent roulent à plein régime avec des nouveaux visages qu'on n'avait jamais vus. Alors là, maintenant, on doit s'assurer d'avoir un beau partenariat entre nos entreprises comme nos supermarchés qui aident les banques alimentaires. Moi, titre de député avec mon fonds de soutien d'action bénévole, la mairie qui met de l'argent. Et aussi, j'ai mon travail de parlementaire à Québec où... je suis porte-parole en matière d'éducation, enseignement supérieur, stratégie numérique et la lutte contre les paradis fiscaux.
Wow! Comme on voit, tu es une députée hyper impliquée, mais surtout avec beaucoup de dossiers. Le dossier de l'éducation, c'en est tout un. Oui. Marwa Risky, ta circonscription Saint-Laurent, le profil socio-démographique, c'est une circonscription qu'on trouve quand même pas mal de gens issus de l'immigration. Peux-tu nous
Saint-Laurent,
parler un peu?
On a ouais. Tout. On appelle ça, affectueusement, là, les Nations Unies, parce qu'on a vraiment les genres de différentes communautés. On a plus de 100 différentes communautés culturelles. On parle, à mon bureau, là, on parle, je pense, 7 langues, là. Français, anglais, espagnol, le grec, l'arménien, l'arabe. Là, c'est sûr, j'en ai manqué. Espagnol, oui. Alors, okay. On est capable de servir les gens en 7 langues au bureau de Saint-Laurent. Mais sinon, les gens parlent le français. Et, oui, on est aussi un endroit au Québec où on accueille le plus de nouveaux arrivants. C'est pour ça qu'on a les deux plus grands centres d'accueil en immigration, le CACI et le CARI. Eux reçoivent au-dessus de 10 000 nouveaux arrivants. Alors, c'est sûr qu'on est un gros bassin d'accueil. Le profil socio-démographique, on a vraiment de tout à Saint-Laurent. On a autant qu'on a des familles très vulnérables qu'on a des familles multimillionnaires à Saint-Laurent. On a des quartiers très, très, très riches et on a des poches de population beaucoup plus pauvres parce qu'on voit qu'il y a une chance qu'on est unis dans notre nation unie parce qu'on est capable de desservir tout le monde.
Juste un instant, j'ai une petite surprise pour toi. Écoute, Marwa, ta circonscription, lorsqu'on y va, c'est une circonscription très coconote, très verte. Marwa, écoute, peux-tu nous dire l'importance de l'environnement pour notre députée de Saint-Laurent? Marwa Risky, on sait, toi, t'es très progressiste quand même. L'environnement, l'importance de l'environnement pour toi et dans ta superbe circonscription très verte.
Ben, Saint-Laurent, c'est vraiment vert, là. Ouais. On a la chance d'avoir, au niveau municipal, avec Alain de Souza, plusieurs virages verts qui ont été entrepris il y a plusieurs années déjà. Les nouvelles constructions là sont catégorie argent là, donc c'est on voit qu'on utilise tous les matériaux vraiment appropriés. On a vu l'envers, on fait hier je parlais avec la Villa Rainbow qui est une OBNL qui accueille des retraités mais à faible revenu. Ils ont un immense terrain puis on est en train de voir avec vue l'envers pour parce que même s'ils sont en confinement, eux sont tous ensemble en confinement, mais quand l'été va revenir, ben on voudrait aussi utiliser leur terrain pour faire un potager et tout ça. Et ça, là, c'est à Saint-Laurent, c'est très apprécié. Puis, durant l'été à Ville-Saint-Laurent, il y a les jeunes qui font du vélo, mais ils embarquent des aînés derrière eux. Okay. comme un peu une forme de calèche. Là. Alors, okay. C'est super intéressant. Alors, on est très, on est une ville très innovante aussi, pour savoir qu'on a le technoparc. Avec le technoparc, c'est clair que nous, nos entreprises sont tournées vers l'avenir. Donc, ça nous permet d'être hyper innovantes, mais aussi de s'assurer que les gens qui habitent à Ville-Saint-Laurent, il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent au technoparc. Et avec le REM qui s'en vient, ça va faire du bien pour vraiment faire un virage électrique.
Électrique et surtout, ça raccorde davantage encore les gens de l'ouest de la ville. Donc, ça, c'est un beau projet. Marois Risky, t'es tellement impliqué, mais surtout, tu représentes un modèle pour les jeunes filles. Moi, je travaille dans les écoles secondaires du Québec. Et lorsqu'on a des modèles comme toi, et surtout, je veux pas porter jugement, mais tu es assez jeune quand même. Écoute, pour ceux qui ne savent pas, tu as un doctorat quand même. Là, en plus, tu es avocate. Quand même, et surtout, tu as été professeur à l'Université de Sherbrooke, Marois Risky. Mais est-ce que tu es consciente que tu représentes véritablement un modèle? Car je sais que l'intégration des nouveaux arrivants est très importante pour toi. Alors, peux-tu un peu discuter là-dessus avec nous, là,
ben, ce moi, modèle savoir, que tu représentes? Là, je m'appelle Marois Risky. Alors, clairement, mon nom vient d'ailleurs. Là. Je suis née ici, mais mes deux parents sont d'origine marocaine. Okay. Malheureusement, moi, quand j'étais jeune, mon père est tombé malade. Il a perdu son commerce, fait faillite. On a perdu la maison familiale. Ma mère, quand c'est pareil que mon père, pas une scène. Ma mère ne pouvait même pas se défendre. Elle ne savait pas c'est quoi ses droits. Ma mère parlait français, mais elle n'est jamais allée à l'école au Maroc. Donc, elle, à 7 ans, au lieu d'aller à l'école, faisait la vaisselle. Quand elle est arrivée ici aussi, après la séparation de mon père, ça a été très difficile. Elle n'a pas de diplôme, c'est pas lire ni écrire. Donc, on ne parle même pas d'analphabète fonctionnel, on parle d'analphabète point. Alors, à cette période-là, dans mon adolescence, ça a été très dur là, parce que moi, je travaillais à temps plein à l'âge de 14 ans. J'allais au secondaire. Et le soir, j'allais travailler, je prenais le métro, je me rendais au métro Parc, qu'on appelle toujours Parc-Ex. Puis, j'allais travailler jusqu'à 23 heures pour aider ma mère à payer le loyer. Alors, ça a été toute une adolescence. Puis, au cégep, je travaillais à temps plein à Banque de Montréal, au siège social ici dans Vieux-Montréal. Puis, j'avais 9 cours au cégep et j'avais pas le choix que de réussir parce que je sais c'est quoi être pauvre. Et je sais c'est quoi la détresse que tu peux avoir financière à savoir est-ce que oui ou non. Un, tu vas te trouver un logement parce que moi, quand j'avais 11 ans, puis ma mère et moi, on allait trouver un logement parce qu'on venait de perdre la maison. Puis les gens, ils demandaient, ben, vous avez combien d'enfants? J'en ai 4, puis en plus de ça, j'ai une fille handicapée. Moi, ma grande sœur est déficiente intellectuelle. Donc, ça a été pour moi hyper important. Puis moi, j'ai vu ma mère plusieurs fois pleurer. Là. Puis maintenant, je vais rassurer tout le monde. Ma mère a appris le français bien comme il faut. Elle parle, elle écrit. C'est parti en affaires. Puis maintenant, c'est le jour et la nuit. Le seuil a fini par briller. Mais quand j'étais jeune, ma mère m'avait vraiment regardée de façon la plus sérieuse au monde. Elle me disait, Marois, la jeunesse, la beauté passe, mais l'intelligence reste. Assure-toi d'avoir des diplômes, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais t'enlever, même après un divorce. Ça, c'est ce que ma mère m'avait dit, j'avais comme 14 ans. Donc, c'était clair pour moi que j'ai acheté des diplômes pour avoir mon indépendance financière, mon autonomie. Vu que je n'avais pas beaucoup d'argent puis que je travaillais quand même à temps plein, quand tu as des bonnes notes, tu as des bourses. Alors, c'est important que j'ai des bonnes notes. Par la suite, j'allais étudier à l'Université de la Floride. Ça coûte excessivement cher aux États-Unis. Puis j'ai été tellement chanceuse d'être boursière. Et j'ai toujours pris toutes les opportunités qu'on m'a données en ayant ce sentiment que, moi, j'ai vraiment, quand on dit que ça prend un village pour élever un enfant, dans mon cas, c'est vrai que c'est un village qui m'a élevée. Alors, quand j'ai terminé mes études aux États-Unis, oui, je suis aussi avocate à New York, j'ai pu faire le choix très facile de rester aux États-Unis, faire 3 fois mon salaire d'ici, puis payer 2 fois moins d'impôts. Mais la conscience sociale m'indique que c'est clair, il faut que j'amène au Québec et d'apporter tout mon bagage que j'ai appris aux États-Unis, l'amener ici. Et quand je suis arrivée à l'Université de Sherbrooke, qui est aussi mon alma mater, j'ai parti d'autres programmes avec l'équipe de fiscalité. On a développé un nouveau micro-programme qui n'existe nulle part au pays, la fiscalité de la taxe à la consommation. Donc ça a été vraiment un super de beau projet. Et par la suite, quand j'étais professeure, j'étais très impliquée avec l'équipe de enquête de Radio-Canada, ainsi que le bureau du genre de Montréal pour les enquêtes fiscales. Alors, j'ai participé dans l'affaire des KPMG, le scandale KPMG. Quand j'ai participé, j'étais pas une fraudeuse, j'expliquais les fraudes. Panama Papers, Paradise Papers. Alors ça a été... tout ça, j'ai toujours fait pro bono. Tout le travail de journaliste d'investigation qui est formidable de voir en arrière-plan, parce que les gens qui voient 15 minutes de reportage à Radio-Can ne se doutent pas que c'est 1 an, des fois 2 ans d'enquête avant qu'on arrive public, parce que quand on dénonce quelque chose d'aussi gros, tu sais, de la fraude à milliards de dollars, là, quand on s'en vient public, il faut qu'on soit sûr, parce que sinon les risques de poursuite sont assez importants. Là.
Incroyable. Marois Risky, tu es une vulgarisatrice née. D'où pourquoi, à un certain moment de ta vie, de ta carrière, tu as été tranquillement amenée vers l'enseignement aux études supérieures. On t'a vu participer à des commissions parlementaires où tu expliquais que on a longtemps parlé de l'évasion fiscale, mais il faudrait également et davantage se pencher sur ce qu'on appelle l'évitement fiscal.
Oui.
Marois Risky, en moins d'une minute, là, parce qu'on a un autre volet que j'aimerais aborder avec toi, quand même sur les impôts, quand même en temps de crise, mais sur ce volet, je pense que c'est important de vulgariser pour les internautes qui nous écoutent ce soir.
Parfait. Alors, fraude fiscale, c'est vraiment quand on ne veut pas payer nos impôts. Exemple super facile à comprendre. Pensons par exemple au niveau esthétique. Si vous payez votre esthéticienne sous la table, bien, c'est sûr qu'elle ne va pas le déclarer dans cette déclaration de revenus. Ça, on appelle ça de la fraude fiscale. Très honnêtement, ça ne m'empêche pas de dormir. C'est vrai que c'est grave, moi, là, ce qui m'empêche de dormir, c'est l'évitement fiscal, parce que l'évitement fiscal, c'est que c'est parfaitement légal et c'est souvent fait en complaisance du gouvernement qui ne veut pas changer ses lois, qui fait en sorte que des entreprises utilisent la loi de l'impôt, les échappatoires fiscaux légaux, pour détourner les profits canadiens vers des paradis fiscaux. Exemple concret, Netflix. Presque tous les Canadiens sont abonnés à Netflix. Vous allez voir sur votre compte Netflix, c'est marqué Netflix BV, donc Pays-Bas. Donc, votre abonnement à 15 $ par mois, là, il n'est pas imposé ici sur ses revenus au Canada. Il ne sera même pas imposé aux Pays-Bas parce qu'avec une astuce fiscale, nous, on va être capable de ramener ça dans un paradis fiscal libre d'impôts. Et finalement, ça, c'est l'évitement fiscal. Et on peut changer, là. C'est tellement simple comme changement législatif. Ça en est désolant que ça n'ait jamais été fait.
Aïe, j'aurais tellement aimé ça, suivre un cours avec toi à l'Université Marois. En une minute, tu viens de vulgariser ce qui peut prendre des fois plusieurs années à comprendre. Incroyable.
Mais je donne encore des conférences pour bono avec le Barreau du Québec. J'en donne aussi dans les écoles secondaires et attache ta tuque. Primaire, j'ai eu des demandes d'école primaire. Des jeunes de 6e année qui sont intéressés à la fiscalité numérique.
Ben, incroyable. Écoute, ta capacité de vulgarisation, le A1. Marois, on est en période de crise sanitaire actuellement. En tant que député, il nous reste 3 minutes, très rapidement, 2 minutes, là. Comment vis-tu cette crise en tant que député, si tu te le permets, en tant que Marois, en tant que citoyenne également, comment vis-tu cette crise sanitaire actuellement?
Ben, au niveau personnel, moi, ma grande sœur est déficiente intellectuelle, mais elle a aussi de la schizophrénie. Le mois de décembre, janvier et jusqu'à mi-février, elle était hospitalisée à l'hôpital. Elle a eu une chute psychologique, psychiatrique. Et quand elle est sortie, on est tombé en COVID-19. Alors, pour elle, c'est comme un enfant. Il faut que tu répètes au moins 100 fois avant qu'elle comprenne. Alors, moi, j'ai vraiment eu à ce moment-là, dans les 2 premières semaines de la COVID, une inquiétude par rapport à ma sœur, parce que même si tu lui dis qu'elle ne comprend pas nécessairement, alors là maintenant c'est beau, elle a compris. Au niveau plus de ma vie professionnelle, politicienne, j'ai la chance que, par exemple, à Saint-Laurent, moi j'ai plein d'entreprises là, qui sont virées de bord. Par exemple, CAE qui faisait aucun ventilateur, après 11 jours, ils étaient capables de produire des ventilateurs. J'ai une autre entreprise qui partait sur les plexiglas pour les mettre pour protéger les caissières et caissiers. Donc, ça, c'est vraiment beau. Moi, par exemple, ça m'a aussi amené à faire plein de réflexions. Moi, j'aime ça réfléchir. Devant cette crise sanitaire, j'allais lire et j'ai tombé sur le rapport de Diane Lamarre, parce qu'elle était présidente de l'Ordre des pharmaciens. Elle indique une affaire là, vraiment importante. 70 % des ingrédients actifs qu'on retrouve dans les médicaments produits au Québec viennent de deux pays, la Chine et l'Inde. Notre dépendance est vraiment trop importante. Ça fait par exemple qu'aujourd'hui, si jamais on était en pénurie de médicaments, on va dépendre de deux seuls pays. Or ça, je pense que c'est important que rapidement, on se donne comme objectif de réduire cette dépendance de moitié d'ici 5 ans. On peut mettre à contribution là, plein d'entreprises québécoises, Hydro-Québec pour être capable aussi de produire davantage des produits alimentaires en serre ici au Québec, parce qu'il y a notre autonomie sanitaire, mais aussi notre autonomie alimentaire qu'il va falloir qu'on discute. Puis dans un prochain épisode avec toi, je l'espère, on pourra aussi parler de notre autonomie numérique.
Wow! Incroyable! D'ailleurs, il m'arrive d'enseigner éthique et culture religieuse, programme qui a été réformé. Il y a un nouveau volet qui s'en vient, qui est démocratie numérique. Donc, je pense qu'on va pouvoir avoir un beau volet là-dessus.
Là-dessus, je vais te relancer parce que au niveau des jeunes, toute l'histoire des sextos, il y a vraiment du matériel juridique. Mmh. Alors, si jamais un jour tu veux qu'on en parle,
excellent, on va t'inviter. Puis Marois, il y a la crise sanitaire, on voit nos gouvernements pour répondre aux besoins des citoyens délient les cordons de la bourse au niveau fédéral, au niveau provincial également, avec l'accord de l'Assemblée nationale bien sûr et du Parlement à Ottawa, la Chambre des communes. Marois Risky, mais là c'est bien beau, ils sortent de l'argent. Mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'on rentre cet argent-là. Nos gouvernements, ils vont avoir un choix à faire. Est-ce que ça va être d'augmenter les impôts afin de pouvoir rentrer de l'argent pour assurer les services? Et là, je m'adresse à Madame la fiscaliste, Marois, et ou autrement, tout simplement baisser les impôts afin de permettre aux citoyens d'avoir plus d'argent dans leur poche et avoir un pouvoir d'achat ainsi plus grand. Toi, tu en penses quoi, là?
Bien, là, la fiscaliste va parler. Oui, effectivement, notre endettement va augmenter. Mais au niveau du PIB, c'est encore jouable. On ne va pas tomber dans un pays, là, tout à coup, au Canada, qui va être en situation de faillite. Ce ne sera pas le cas. Donc, je tiens à rassurer ici tout le monde. Une dette, ça se rembourse sur plusieurs années. Augmenter les impôts? Non. Les particuliers, là, le plus haut taux d'impôt est à 53 %. Moi, je considère qu'en haut de 50 %, là, on a vraiment atteint un point assez important. On ne peut pas aller plus loin. Parce que lorsqu'on va plus loin, le danger, c'est l'évasion fiscale. Là, vous allez appeler des fiscalistes comme moi. Vous allez dire, là, Marois, j'en paye trop. Trouve-moi un échappatoire. Puis, moi, ma job, c'est d'en trouver des échappatoires. Quand j'étais fiscaliste au privé, maintenant. Mais au contraire, il faut s'assurer que les autres qui ne payent pas d'impôts, les multinationales étrangères, que ce soit vous, Google, Facebook, Netflix, qui eux vampirisent là, vraiment, surtout Google et Facebook, qui vampirisent les revenus publicitaires des journaux qui sont en train de mourir, eux ne payent pas un sou d'impôts. Pourtant, ils font des milliards de profits. Quand on voit que Facebook a fait plus de 3 milliards de dollars au Canada l'an dernier et n'a pas payé un sou d'impôts, ben moi, ça m'indispose. Et Google en a fait encore plus, pas un sou d'impôts. Alors, moi, au contraire, je vais devoir dire la chose suivante. On a au Québec réussi à faire la taxe Netflix. Maintenant, il faut faire la taxe GAFA au niveau fédéral pour assurer que les entreprises étrangères du numérique, les géants du web, payent leurs impôts. D'autre part, il va falloir qu'on revienne aussi à une fiscalité beaucoup plus juste. On a vu aujourd'hui, c'est qui hein, qu'on a vraiment besoin dans la vie. On est très content d'avoir des préposés, des ambulanciers, des inhalothérapeutes, des infirmières. On leur a donné aujourd'hui une augmentation de 8 % salariale. Si on veut aller vraiment plus loin, ben pourquoi pas que cette augmentation-là, durant le temps de la COVID, là, le portion là, qui est augmentée, pourquoi qu'on ne leur donnera pas libre d'impôt? Parce que sinon, le gouvernement du Québec leur donne un montant de la main droite, Puis d'autre côté, la main gauche, on leur reprend en matière d'impôts durant une période là, qui est vraiment difficile durant la COVID. Moi, là, de voir des infirmières pleurer dans leur char avant de rentrer dans un shift ou après leur shift, ça me fait vraiment mal au cœur. Alors, tu sais, si on veut vraiment leur dire merci, traitons-le un peu comme les militaires quand ils s'en vont en guerre. En mission, là, leurs revenus ne sont pas imposés.
Marois Risky, écoute, les informations que tu nous donnes, c'est comme de l'or en bouche. Personnellement, je m'abreuverais de tes connaissances, mais pendant un podcast entier, franchement, c'est incroyable. Franck, tu es une députée hyper intéressante. Marois Risky, le mot de la fin, si tu as un conseil à donner aux citoyens du Québec, tu t'adresses à la nation québécoise. Quel serait ce conseil en temps de crise sanitaire? Nous t'écoutons.
Honnêtement, je sais qu'on peut donner plein de conseils au niveau financier ou pas. Moi, j'ai envie de parler de culture. C'est tellement important de lire. Moi, quand je suis entrée en politique, je m'étais donné comme mission de continuer à lire au moins un livre par semaine. Alors, je vais préparer des suggestions pour vous. Hein?
Wow! Incroyable!
Wow. Oh, ça, c'est mon coup de cœur. Et en ce moment, je lis un nouveau livre qui n'est pas encore sur les tablettes. C'est La femme qui rit de Brigitte Pilote qui va arriver le 15 mai au Québec. Sincèrement, la lecture en ce moment, même cette tonne, vous n'avez pas les sous. Grande bibliothèque, c'est gratuit. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop lire nécessairement, tourner les pages. Moi, j'aime ça. Mais il faut vraiment prendre la peine de lire. La littératie, ça nous ouvre des univers d'inspiration, mais aussi d'aspiration sociale. Ça nous permet aussi de nous évader.
Messieurs, dames, et nous avions...
Le mot de la fin.
Oui, Marois!
Je le dis, hein?
Oui, je t'écoute.
Ah, ben, un petit mot de la fin. Un gros merci. J'aimerais aussi dire un merci à quelqu'un de tout spécial. Il s'appelle Wishou. C'est un jeune étudiant de Saint-Laurent. Qui a réussi à trouver 200 masques qu'il a apportés au Centre d'action bénévole de Saint-Laurent. Le Centre d'action bénévole de Saint-Laurent, c'est plus de 500 bénévoles qui vont faire les épiceries pour nos aînés, les gens plus vulnérables qu'ils apportent à domicile, alors pour assurer leur sécurité. Un jeune étudiant, Wishou, qui s'en va les porter jusqu'à eux autres pour assurer la sécurité de tous les bénévoles. Alors bravo à Wishou dans mon comté à Saint-Laurent, puis un gros merci à Coconut Podcast.
Ben, on te remercie, Marois Risky, une députée à découvrir et à connaître. Allez la suivre sur les réseaux sociaux. Marois Risky, écoute, ça a été un plaisir. Messieurs, dames, nous avions Marois Risky, députée de la circonscription de Saint-Laurent. Moi, je vous dis, une députée qu'on gagne à connaître. Ce fut un honneur. Alors, on va en pause publicitaire et on revient dans quelques instants. Merci. Thank you.